RMC Running, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec le meilleur coach de France, le célèbre Johan Durand, à mes côtés, comme à chaque fois. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va impeccable?
Bah ça va super, je suis toujours ravi de te retrouver.
Et pareil,
on est...
On se régale.
Comment dire, on est heureux aussi et fiers et reconnaissants surtout pour le soutien que vous nous apportez, vous, communauté RMC Running. On sort d'un mois de mars
record.
Ils sont
de plus en plus nombreux.
Plus de 250 000 écoutes le mois dernier. Donc merci à tous. Magnifique record établi. On espère que ça va continuer. D'ailleurs, continuez de nous suivre sur Strava, sur Instagram, RMC Running. Vous allez vous régaler. Il y a plein de cadeaux qui arrivent et de belles nouveautés. On a un bon épisode avec une super thématique qui va t'inspirer aujourd'hui, Johan. On va parler de l'équilibre à trouver entre les données statistiques et l'écoute des sensations. Ne pas être obsédé par la montre connectée. Et ça, c'est un vrai sujet qui concerne tout le monde, Yodu. Hein.
Et oui, parce que moi, j'ai commencé il y a 15 ans. Tu t'écoutais que tes sensations sur ton plan d'entraînement. Tu mettais 10 km, mais tu savais pas si tu avais fait 8 ou 12. Hein.
Ah oui, t'es si vieux que ça, ouais, c'est vrai, mais bien sûr.
Eh oui, moi, j'avais une Casio, hein. Casio chrono, c'est tout.
T'avais le chrono autour du cou parfois, quoi. Incroyable, quoi.
Ouais, ça, j'ai jamais eu. Mais j'en ai vu un paquet courir avec les chronos en main encore jusqu'à il y a 10-15 ans.
Ah, c'est fou.
Le chrono dans la main, là, ceux qui avaient l'habitude.
On va accueillir un cadre pour en parler avec nous, Nicolas Moreau. Il est coureur, chercheur, sociologue. Il sera avec nous dans un instant. Il a sorti justement un rapport sur le sujet, les montres connectées et l'écoute de son corps. Et à la fin de ce podcast, on mettra en avant une belle initiative d'ailleurs, Lisa Forever, l'association qui vient en aide aux enfants touchés par un cancer. Il y a une course qui est organisée le 31 mai avec différents formats, le 5 km, le 10 km et le 15 km. Il y a également de la marche qui est mise en place. Si vous voulez faire une bonne action, on vous explique tout en fin d'épisode. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, lancez la montre connectée. C'est parti pour RMC Run. Nicolas Moreau, donc dans ce studio avec moi. Salut Nico.
Salut.
Sois le bienvenu. On a des amis communs parce que tu es canadien, tu viens de Montréal. Et tu connais très bien Maxime Lopez, qu'on a souvent reçu d'ailleurs dans ce podcast.
Je croyais Céline Dion.
Ouais, aussi. Est-ce que tu connais Céline?
J'y ai cru.
Non.
Non, malheureusement, non. Ok. Mais en tout cas, c'est assez marrant. Vous êtes proche avec Maxime, parce que vous avez fait partie du même club, même d'athlétisme. Donc, c'est vraiment...
On ne court pas la même vitesse, par exemple.
Ouais, d'accord. Ok. Et je disais coureur, chercheur, sociologue, parce que toi aussi, tu es un bon coureur. De toute façon, tu es un passionné de course à pied.
Ouais, c'est ce qui fait que je travaille là-dessus. C'est d'abord que j'aime courir et que j'assume ma passion et mon amour de la course à pied, définitivement, ouais.
Pourquoi tu cours alors? C'est toujours la question qu'on pose en début d'épisode.
Ça serait très long à expliquer, mais pour éviter de penser, je pense.
Ah ouais, justement.
Ouais.
C'est ton moment de pause dans la journée, quoi.
Absolument. Je cours jamais avec de la musique, jamais, toujours sans cellulaire. Très tôt le matin, quand il n'y a aucun bruit dans la ville, donc vers 6h, 6h15 du matin. Et,
toujours à jeun?
Oui, toujours à jeun, sauf... pour les longues sorties, mais sinon, en fait, pas un jeun, juste une pâte de fruits.
Ok, ça suffit.
Et oui, et nos entraînements, justement, quand Maxime était au club, c'était, on a un entraînement à 6h30 du matin, soit à l'intérieur ou soit sur une piste d'athlétisme. On doit faire à peu près 20 minutes avant d'échauffement, donc je pars de la maison à 5h55 et c'est un bonheur complet, parce qu'à Montréal, surtout l'été, on voit le soleil se lève et c'est magnifique.
L'hiver, c'est autre chose. L'hiver, on est sur du moins 20, la neige.
Oui, oui. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, de courir de courir à Montréal, parce qu'il y a pratiquement un écart de 40-50 degrés entre l'hiver et l'été, ce qui fait que c'est pratiquement deux sports, la course à pied l'hiver et la course à pied l'été. À Montréal, on a toujours trop froid ou trop chaud quand on court.
Voilà, c'est toujours trop.
Oui, il y a quelque chose.
C'est ça.
C'est tous les excès.
Voilà, sois le bienvenu. On est ravis de traiter cette thématique avec toi. Et on aura le retour d'expérience de Johan, qui est donc athlète de haut niveau depuis plus de 20 ans désormais. Et Johan, avant de démarrer le podcast, justement, on parlait de cette thématique parce que ça fait partie des sujets qu'on aborde régulièrement. Tu nous dis, et c'est peut-être une des problématiques de tous les coureurs amateurs aujourd'hui, on ne s'écoute plus assez, Johan. Et ça, c'est un vrai souci qu'on a remarqué avec les personnes qu'on encadre, notamment.
Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se fier et faire confiance au monde connecté et des fois même à se brider ou autre et être tout le temps à regarder ces différentes données. Et en plus, c'est des données qui ne sont pas toujours faciles à interpréter. Tu vois, pour quelqu'un qui démarre la course à pied, tu lui mets la dernière montre connectée, il va utiliser mais 5% ou 10% des capacités de la montre. Et donc, des fois, il vaudrait mieux savoir écouter son corps, ses signaux de fatigue, la douleur et tout, pour déjà connaître comment tu réagis vis-à-vis des séances, vis-à-vis de l'entraînement que tu mets en place. Et après, effectivement, les données peuvent venir vraiment dans une logique et dans un processus de performance plutôt que pour un coureur débutant, avoir la dernière montre ultra connectée. Je suis pas sûr que ça soit toujours très utile dans son cas, ouais.
Nicolas, pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet ? Parce que c'est la grande mode, désormais on ne court plus sans montre connectée ?
Oui, ben en fait, il y avait plusieurs choses. La première, c'est que j'ai fait une recherche avant celle-ci, j'avais fait une recherche sur l'addiction à la course à pied.
D'accord.
Et j'avais remarqué que la quantification de soi, le fait de se mettre sur Strava, était une dimension qui était ressortie chez les personnes addictes au sport. Mmh. Donc ça, c'était la première chose. Je m'intéresse aussi à la course à pied et au vélo, et je voyais qu'il y avait un intérêt marqué depuis quelques années sur les données numériques, que ce soit les watts, où il y a une obsession des watts en vélo. Il y a une obsession aussi du pace et tout ça, de tout quantifier en course à pied.
Pro ou amateur d'ailleurs.
Absolument, ouais. Absolument. Et la troisième chose, c'est qu'il y a aussi un mouvement de résistance qui est le minimalisme, où il y a toujours des gens qui refusent de courir complètement avec une montre connectée. Donc je faisais OK. Donc ces raisons-là faisaient que je me suis intéressé à ça, et moi-même, je suis quelqu'un qui met mes données sur Strava et qui j'ai du mal à courir sans montre connectée, même si je ne vais pas forcément la regarder, mais je vais toujours la voir sur moi. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis intéressé
à ces problématiques-là, ouais. À cette relation entre l'objet connecté et les sensations, écouter son corps, savoir justement distinguer si on est dans la bonne zone d'effort ou pas. C'est vrai que ça me rappelle des souvenirs, Johan. On a reçu récemment différents invités. Moi, je pense à Mila, qu'on avait reçu dans l'opération Gustave Roussy, là, qui avait participé au semi-marathon, qui nous disait parfois « je vais courir sans montre ». Et nous, on l'a regardé, enfin, en tout cas, on lui a répondu, elle a dit « ah ouais, bravo, on ne sait pas comment tu fais, bah, là, tu y arrives, tu arrives à courir sans montre ». Qui se fait de moins en moins désormais. Ah,
c'est très rare. Hein.
Johan, ça t'arrive plus d'ailleurs.
On a une dépendance. Qui, moi ?
Ouais.
Ah non, mais t'es fou. Moi, la dernière fois, j'ai oublié de déclencher mon chrono. Il me manquait 2 km. Il a fallu que je le mette sur Strava. Manque 2 km et que je les ajoute en manuel, tu vois.
Je
suis devenu complètement dépendant de ça. Après, bon, c'est un réseau comme un autre. Mais non, je ne cours. Ah ouais, donc si j'oublie ma montre, je ne sais même pas si je vais courir. Hein. Il n'y a plus trop d'utilité. Non, mais on est devenu. C'est une vraie obsession et une vraie dépendance chez les coureurs, ouais.
Alors, comment tu as travaillé ton étude ? Déjà, le groupe que tu as sélectionné, comment tu as fonctionné ? Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses ?
Oui, absolument. En fait, donc, moi, j'ai pris mon club d'entraînement. J'ai demandé à mon entraîneur s'il connaissait un certain nombre d'athlètes qui s'entraînaient avec nous et aussi d'autres athlètes, parce que c'est quelqu'un aussi qui est quand même pas mal réseauté au Canada. Et il m'a mis en contact. En fait, il a simplement envoyé mon annonce à un certain nombre de... ce que j'appelle des coureurs élites, donc c'est en fait ceux qui ont fait qui sont élites selon le critère de l'athlétisme Québec, selon une année, selon le genre, l'âge. Et puis
c'est quoi en termes de chrono qu'on ait une idée d'ailleurs, un coureur élite
Ça dépend sur 5000, sur 10 000,
oui, voilà.
Mais je ne saurais pas vous dire exactement, mais je pense que ça doit être 2:30.
2:30 au marathon, sub 30 peut-être au 10.
Quelque chose comme ça. D'accord. Puis peut-être sub 15, je ne sais pas où.
15-30.
Ouais, exactement.
Ouais. Ok. Et alors, quel était le deal de départ ? Tu les as suivis combien de temps ? Comment ça s'est passé ?
En fait, ce que j'ai fait, c'est que il y a une technique qui est vraiment, vraiment intéressante en sociologie, c'est de faire des entrevues en courant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai contactés et je me dis... dans votre séance de récupération, parce qu'on a forcément une séance de récupération par semaine où on va courir à un rythme très lent, à un pace très lent. Donc, est-ce que ça vous dérange si on va courir une heure et quart ensemble et que je vous pose un certain nombre de questions sur la montre connectée, votre relation aux données ? Et tous m'ont dit, mais bien sûr, simplement parce que ça rentrait en fait dans leur emploi du temps. C'était pas un temps supplémentaire pour eux.
Ouais.
Si je leur avais demandé probablement de venir à l'université, ils m'auraient dit, bah, écoute, j'ai pas le temps, j'ai 2 entraînements par jour, donc non.
Ouais.
Et là, c'était, j'allais dans leur lieu en plus. Et on a simplement. Et après, j'avais 5-6 questions sur. à partir de quand ils ont commencé à se chronométrer, pourquoi se quantifier, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, leurs sensations et leurs données ne concordent pas. Est-ce que ça leur arrive de courir sans montre? Est-ce qu'ils regardent la même chose? Si c'est une sortie courte, une sortie longue, une sortie de récupération, s'ils sont à 3 semaines d'un marathon, 3 semaines après un marathon, qu'est-ce qui fait qu'ils vont paniquer? Est-ce que ça les stresse au niveau de leur santé mentale de voir des fois leur battement cardiaque en haut? C'est quoi leur écran de données? Je suis allé vraiment dans une micro, ce qu'on appelle une micro-sociologie pour regarder exactement. Parce que j'étais étonné aussi de discuter avec certains coureurs qui me disent, moi je cours avec les zones de fréquence cardiaque, d'autres avec vraiment la vitesse, d'autres qui sont obsédés aussi par prendre le lactate et qui vont arriver à avoir une zone exactement où courir. Donc tout ça m'intéressait de savoir en fait comment les gens en fait quelles données ils utilisaient. Puis c'est vrai que en fait, et c'est un des premiers résultats, je vais vous le dire tout de suite, chez les athlètes élites, c'est qu'ils regardent peu de données. Il y en a 3-4 qui vont regarder, mais ils n'utilisent pas les 50 fonctions de la montre. Ça va être toujours la même chose.
Ils ont la même utilisation qu'un amateur. En fait, ils se contentent de 3 données principales.
Oui.
Et quelles sont-elles alors?
En général, ça dépend des vitesse, temps, fréquence cardiaque.
Ouais. Tout simplement.
Oui. Et vous avez, et quand on regarde les études qui ont été faites chez les coureurs éthiopiens, élites, etc., on retrouve la même chose d'ailleurs.
Ouais.
C'est pas voilà. Donc il n'y a pas d'obsession sur
le temps de contact au sol, la fréquence de pas, ce genre de choses. Parce que moi, toutes les montres aujourd'hui fournissent ce type de données.
Ouais. Moi, je l'ai pas vu.
Et voilà. C'est intéressant que tu aies fait ça, je trouve, mais ça fait partie de ta démarche parce que tu es sociologue et tu sais très bien comment l'esprit humain fonctionne. Le fait de le faire en courant, ils avaient peut-être moins le temps aussi de préparer leurs réponses. Il y avait plus de spontanéité dans les réponses que si tu étais posé à ton bureau universitaire, quoi.
Oui, puis pour eux, c'était aussi plus simple. En fait, ils m'ont dit, mais c'est simple de te parler de la course à pied quand on court. Parce que ça me rappelle des choses de le faire. On aurait pu faire le balado en courant. Peut-être que ça aurait évoqué, tu m'aurais parlé de ta montre, etc. Donc, il y a comme quelque chose de presque naturel. Donc oui, les réponses étaient authentiques. Et le fait de ne pas regarder, ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est le fait de ne pas regarder quelqu'un dans les yeux. C'est beaucoup moins intimidant d'être à côté.
Tu regardes ta route, mais tu discutes avec quelqu'un, c'est-à-dire que ça rend l'échange un peu différent.
Oui, c'est plus naturel, simplement, parce que c'est rare qu'on a cet échange-là.
C'est vrai. Si on avait couru ensemble, on n'aurait pas le même échange que là, en ce moment.
Absolument.
On se regarde droit dans les yeux.
Absolument.
Johan, allons-y là-dessus, justement, sur les différentes données analysées sur les montres connectées. Est-ce qu'on peut connaître l'écran de données de Johan Durand à l'entraînement et en compète? Alors, qu'est-ce que tu affiches?
Les données qui viennent d'être citées, à savoir le chrono. J'ai le chrono en gros au milieu qui défile. Au-dessus, j'ai la distance. En dessous, j'ai la vitesse. Alors moi, je fonctionne en pace par kilomètre, c'est-à-dire vu que j'ai l'autolap, alors sauf sur les séances de fractionné ou autre, mais par exemple sur un footing, je vais biper tous les kilomètres et c'est l'autolap du circuit, c'est-à-dire que parce que je trouve que la vitesse instantanée, même s'il y a quand même eu des nettes améliorations, des fois il y a des petites variations. Donc je préfère regarder la moyenne de mon temps au kilo sur le dernier kilomètre. Et après, sur l'écran suivant, c'est cardio, le pourcentage de zone de ma FC. Et puis voilà. Après, j'ai un autre écran où j'ai l'heure, l'altitude et tout ça. Mais ça, c'est effectivement pareil, je ne m'en sers pas. Et après, j'ai quand même un autre écran. Le troisième écran, en vrai, c'est le tour. C'est-à-dire que, par exemple, si je pars faire un 2000 sur la piste, là, j'enlève l'autolap pour pas que, admettons, ça lappe à 1980 mètres, tu vois.
Ouais.
Parce que même si les tours de piste sont... Enfin, les
ça progresse
GPS
là aussi,
en mode
sur les modes piste.
Sont quand même beaucoup plus fiables. Je préfère me fier quand même au traçage de la piste. Donc, du coup, j'ai un mode lap automatique. C'est moi qui lap. Et là, j'ai mon temps au circuit. Par exemple, admettons, je fais des 300. Voilà, je vois mon temps défiler. Je peux regarder mon temps de passage au 200. Et je lap à l'arrivée. Et puis, ça me donne aussi ma récup. J'ai ce lap-là. Mais effectivement, après, moi, toutes les données... qui va y avoir, je peux les regarder après en post-course, mais le jour de ma course et en compétition, j'ai encore moins d'écran. C'est vraiment comme il l'a décrit, c'est vraiment hyper basique et hyper simple. Ouais.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, avant de, justement de l'avoir, d'avoir la réaction de Nicolas, voir si notre athlète français est le même que les athlètes québécois. Yodu, c'est-à-dire que tes écrans, tu ne les changes pas pour une course ? Tu gardes cet écran principal avec vitesse, chrono, distance sur un marathon, un semi ou un 10 ?
Ouais, je garde
donc
ça. Après, j'ai
donc, tu n'as pas le cardio sur ton écran principal de montre quand tu fais une épreuve ?
Ouais. Non. Non, okay. Moi je cours vraiment à l'allure et à la FC, mais après, honnêtement, après 25 ans de pratique, je connais ma FC et je vois, j'ai la capacité à essayer de me dire quand je suis en train de dériver ou pas et quand il faut lever le pied ou pas. Et puis après, bah, je donne, tu vois, sur un marathon, quand t'es cuit et puis tu donnes tout ce que tu peux jusqu'à l'arrivée. Mais même sur les premiers kilos, je préfère partir avec le groupe avec lequel je me suis lancé, avec lequel on s'est décidé. Et je préfère regarder l'allure que le cardio. Mais a posteriori, c'est pareil sur les séances, mais on va l'analyser. Par exemple, une séance de seuil où on voit que j'ai dérivé et que je suis monté très haut, et ben peut-être que c'est un signe de fatigue et que finalement, la séance, elle a eu plus d'impact que ce que j'aurais pu imaginer. Et dans ce cas-là, on va adapter le plan d'entraînement les jours suivants. Ah. Mais sur le moment, je me fie plus à mes sensations. Alors peut-être c'est parce que moi, j'ai commencé l'athlé en 2001 et que je te dis, pendant 15 ans, j'ai couru avec mes montres et je me faisais qu'avec des montres de chrono et je courais uniquement à la sensation. C'est peut-être pour ça que j'ai cette sensation que c'est mes sensations qui doivent d'abord guider, après c'est l'allure et en dernier la FC. Ouais.
On parlera de la partie d'études a posteriori des données, mais Nicolas, comment tu réagis dans tout ce qu'a dit Johan ? Déjà, les données affichées sur ces écrans, est-ce que ça ressemble aux athlètes que tu as suivis ?
Oui, absolument. Surtout en compétition, les personnes vont venir en compétition. On oublie de toute façon les fréquences cardiaques, etc. Moi, je vais suivre le premier groupe parce que je vais faire un temps et on verra combien de temps.
Parce qu'eux sont des élites. Donc, eux, ils visent la place où le chrono sans tenir compte de la perception de l'effort, entre guillemets.
Ouais. Et il y avait aussi un scepticisme. Alors je ne sais pas si Johan t'as ça aussi, mais par rapport au fait d'avoir, par exemple, les fréquences cardiaques, il y en a beaucoup qui mettaient au niveau du torse et pas juste au poignet.
Ah oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est pas fiable du tout le cardio poignet. J'ai noté des incohérences par moment qui étaient assez dingues. Donc c'est pour ça que pendant un temps je courais avec le brassard au biceps ou alors après maintenant avec le cardio à la ceinture.
Ça c'est révolutionnaire.
Alors c'est un peu plus gênant à la ceinture, mais
mais c'est ultra fiable en revanche. Là, il n'y a pas de,
d'erreur. Il n'y a pas de problème.
Oui, bah, y a des études récentes qui ont montré justement qu'il y avait une diversité ou une disparité avec les montres au poignet. Donc, c'est important de le rappeler. Il ne faut pas juste se fier à ces données-là parce qu'il y a une marge d'erreur qui est importante. Donc, oui, on est sur les mêmes écrans définitivement sur les mêmes écrans de données. Puis après, en course, on essaye de suivre le rythme. Donc, c'est très différent. Après, l'utilisation que les athlètes en font, ça va être aussi pendant, par exemple, les séances des récupérations, ils vont regarder en général la vitesse pour ne pas courir trop vite. Ça, c'était une des données que j'ai vraiment remarqué parmi les athlètes élites, c'est qu'ils font très attention dans les séances des récupérations de pas courir trop rapidement et de pas se fatiguer pour rien, surtout à l'approche de compétition. Donc, ils vont souvent se servir de la montre pour ralentir et non pas pour accélérer, ce qui était un peu un résultat contre-intuitif. Ouais. Alors, je ne sais pas si justement c'est ton expérience, Johan, si c'est ça aussi ton utilisation de la montre dans les séances de récupération, mais moi, c'est quelque chose qui est ressorti en fait de façon assez conséquente.
Oui, non, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que quand tu veux faire un footing en endurance fondamentale et que bah, des fois, tu as les jambes et puis des fois, tu es motivé par je ne sais quoi. Et c'est vrai que tu as tendance peut-être à aller un petit peu vite. Et effectivement, moi, le fait d'avoir tous ces laps au kilomètre, ça me permet vraiment d'être un peu un garde-fou et de me dire non, effectivement, on ralentit. Et à l'inverse, par contre, si je peux faire des kilos à 5,30 ou 5,20 du kilo, ce qui est loin de mon allure, allure, c'est vraiment une allure très facile, une allure récupération, mais ça me dérange pas du tout de voir ça. Il y a des athlètes pour qui peut-être qui seraient obsédés de se dire mais là c'est nul. Moi ça me dérange pas de courir lentement quand c'est des séances qui doivent être de récupération, et voilà, effectivement je m'en sers plus comme un peu un garde-fou pour pas aller trop vite. Ouais, ça c'est une certitude, et c'est encore plus vrai maintenant sur le travail au seuil où j'essaye d'être vraiment calibré parce que j'ai pas encore passé le cap des lactates et tout ça, même si j'ai beaucoup 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 le font dans mon entourage. Donc je calibre quand même à l'AFC et à l'allure, et là c'est pareil, il faut être quand même assez précis. C'est une zone de 7 à 8 secondes. Moi je sais que mon seuil se situe entre 3,5 et 3,12, 3,13, et donc voilà, c'est vraiment une zone très ciblée dans laquelle il faut que je cours. Et donc là j'y suis très attentif, et j'essaye de ne pas dépasser, de ne pas aller plus vite, parce que sinon effectivement c'est là où tu transformes une séance de seuil en une séance de spé 10 où tu bascules dans un autre secteur. Ouais.
Les bons côtés de la montre, on les imagine tout de suite, c'est les données en temps réel, on sait dans quelle zone on se trouve, on peut, comme on l'a dit, la contrôler, sa séance. Les mauvais côtés, c'est quelquefois mentalement, psychologiquement, ça peut faire mal de voir qu'on n'arrive pas à tenir une allure qu'on avait envisagée pour sa séance.
Là, c'est dur.
Et c'est peut-être ça le principal reproche qu'on peut faire aux montres connectées.
Oui, oui, oui. Et en fait, absolument. Et surtout quand il y a une déconnexion entre finalement la sensation qu'on devrait avoir et la vitesse.
Ouais.
Et ça peut être une source de stress ou une source d'angoisse pour les coureurs. Mais les coureurs élites que j'ai interrogés utilisent diverses stratégies pour s'en sortir, pour gérer ce manque de cohérence entre finalement les sensations et les données quantitatives. C'est-à-dire qu'ils vont généralement toujours mettre en perspective les données de la montre. Ils vont dire en bout de ligne, c'est mon corps qui va décider, c'est mon corps qui aujourd'hui donne ça parce que c'est ça la vie. Et sinon, ils vont toujours contextualiser aussi les données. Et je pense que c'est important. Est-ce qu'il fait chaud ? Est-ce qu'il fait... on était tous à Valence, on savait que le record du monde n'allait pas être battu à Valence simplement parce que les conditions météo ne le permettaient pas.
C'est un peu trop chaud.
Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il fait chaud ? Est-ce qu'il fait froid ? Est-ce qu'il y a du vent ? Est-ce qu'on a une bonne ou une mauvaise nuit ? Donc, tout ça, ils sont capables de le contextualiser, et assez vite, ils vont finalement mettre en perspective ces données-là. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment... une dégradation de l'expérience de la montre. Parce que ce qui est intéressant aussi, j'ai oublié de le mentionner, c'est que quand on regarde Strava, il y a quand même en fait un nombre important finalement. Il y a un tiers d'utilisateurs qui commencent Strava qui vont l'arrêter dans le mois suivant, quand on regarde les statistiques. Ah ouais. Donc c'est
Et pourquoi ? Comment tu l'expliques alors ?
Je pense qu'il y a une... Dans les études, c'est parce que en fait, ils sont dès que les données en fait ne leur satisfont plus, dès qu'il y a une
baisse de performance,
les personnes arrêtent.
Ok.
C'est ça. Il y a 16, au bout d'un mois, Strava arrive à avoir un taux de rétention de 16%. Donc ça veut dire qu'il y en a 4 sur 5 qui abandonnent quand ils se mettent sur Strava.
Il y en a deux qui se blessent et deux qui
Et vous voyez qu'il y a plein de profils Strava où il y a personne.
Il y a 0 km, mais les gens, tu peux t'envoyer des kudos parce que leur compte est actif, c'est-à-dire qu'ils regardent ce que font les autres, mais ils ne publient plus leurs données personnelles. Par exemple.
Parce que nous, on a un biais, c'est parce que tous, on l'utilise régulièrement.
Non, mais t'as raison.
Mais ça marche.
Mais ça met en perspective ce que tu dis, tu as raison.
Ouais. Ouais. Et donc, comment les athlètes élites, parce que moi, je me suis dit, comment eux qui sont... Pourquoi je les ai interrogés aussi, c'est qu'eux, ils ont quand même... Ils s'entraînent deux fois par jour, souvent.
Ouais.
Ils s'entraînent, ils font des semaines, surtout en Amérique du Nord, entre 160, 180, ça arrive quand même de temps en temps. Donc, ils courent énormément, ils se blessent relativement peu, quand même. Qu'est-ce qu'ils font ? Et ils courent toujours avec une montre. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se lassent pas ? Et un des critères, c'est vraiment de mettre en perspective ces données-là. J'y reviendrai après, mais il y a aussi toute l'interaction au niveau, je peux en parler maintenant, mais au niveau des groupes d'entraînement. C'est-à-dire que c'est des gens qui courent en général très peu seuls. En tout cas, dans mon groupe d'entraînement. Donc, ils vont avoir les sorties de récupération peut-être juste cela seul, mais les intervalles, ils les font en groupe, et les longues sorties, ils les font en groupe. Et ça permet aussi, parfois de se détacher de la montre, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont courir avec le groupe. Il y en a qui vont courir un peu plus lent, d'autres un peu plus rapide, mais finalement...
Tu ne regardes plus la montre parce que tu te dis « je suis dans la bonne zone d'allure parce que mes autres partenaires sont dedans ».
Puis ils discutent de... ils vont juste l'enregistrer la ferme, à la fin de la sortie, éteindre la montre et regarder à la fin le nombre de kilos, la vitesse moyenne. Le dimanche après-midi, ils vont regarder sur Strava et je suis sûr que... Beaucoup d'auditeurs le font, bien sûr. De regarder notre belle semaine, notre belle courbe sur Strava qui a progressé.
Bien sûr.
Voilà, on est tous pareils. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir en fait, comment le groupe d'entraînement peut finalement aider aussi à développer les sensations parce qu'ils vont parler entre eux de leurs sensations, mais aussi ils vont développer « Ah, bah, d'habitude, je cours plutôt mes longues sorties à 4,40. Là, je les fais à 4,50 et finalement, je me sens mieux pour l'intervalle du mardi. J'en discute avec mon entraîneur, il y a une interaction. » Ça, c'est intéressant aussi de voir le rôle important dans le processus justement de quantification des entraîneurs où l'entraîneur va faire le plan d'entraînement, va aussi très souvent le critiquer. C'est-à-dire qu'il fait son plan d'entraînement et après l'athlète va aller voir l'entraîneur, lui dit « mais je ne suis pas capable de faire ce que tu m'as dit » puis il me dit « attention aux chiffres ». Et en même temps, donc c'est lui qui crée les chiffres et c'est lui qui les critique en même temps.
Ouais, d'accord.
Et la montre sert à ce moment-là de dialogue avec l'entraîneur. Et là, on a, à mon avis, une utilisation intéressante de la montre, c'est qu'elle a un objet de communication et qu'elle permet en fait de rentrer en contact avec l'entraîneur. Et c'est une source d'information comme une autre.
Parce qu'on a des milliers d'exemples d'athlètes qui s'entraînent à distance par rapport à leur coach, qui n'ont pas leur coach au quotidien avec eux, et le coach analyse froidement les données qui ont été réalisées à l'entraînement. Mais c'est pour ça que j'ai une question difficile pour toi. Finalement, la montre connectée, elle est plus utile en course ou après la course ?
Je pense qu'elle est utile avant, après, pendant, je ne sais pas.
Pendant, t'es pas sûr.
Mais pendant, je sais pas, moi je me rappelle d'avoir fait le marathon de Chicago il y a quelques années, la montre elle part au 9e kilomètre parce que les buildings de toute façon font
oui,
que
Donc, déjà
quand vous faites des grands marathons, c'est déjà très compliqué d'avoir votre montre qui dit pas n'importe quoi. Puis après on court quoi.
Ah oui, c'est ça.
Non, mais on suit les rythmes. Alors, il y en a qui vont suivre
les meneurs d'allure.
Ouais, les meneurs d'allure s'ils sont dans la... Mais bon, après, je sais pas. J'ai l'impression quand même que les gens que j'ai interrogés, ce qu'ils faisaient, c'est que en fait, ils l'utilisaient comme la vieille Casio justement, c'est qu'ils vont à un kilomètre regarder.
Ouais, tu regardes le chrono, c'est tout.
Ouais, voilà. Tu regardes pas tes fréquences cardiaques parce que tes fréquences cardiaques vont monter dès le départ. T'es stressé, il y a la petite musique qui est excitante. C'est pas révélateur. En général, ton rythme cardiaque va baisser au bout de 3-4 kilos pour aller pour peut-être augmenter au 30 ou 31e, mais pendant longtemps, il va rester pareil. Donc, il y a trop de facteurs. Est-ce que le stress, est-ce que tu es à la salle aux toilettes avant ? Enfin, il y a plein de stress qui font que ça ne vaut pas grand-chose au niveau de la fréquence cardiaque de le regarder, je pense.
Alors, tu sais qu'il y a plusieurs philosophies. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire en termes d'expérience personnelle. Après, on est tous différents, donc je pourrais juste t'interroger là-dessus. Mais Johan, toi, par exemple, qui est athlète de haut niveau, tu me dis régulièrement que quasiment à la seconde, voire à 3-4 secondes près, en courant avec tellement toute l'expérience que tu as, tu es capable de dire à quelle allure tu cours. Donc, la perception de la vitesse sans la montre, tu l'as d'office, toi. En fait.
Bah ouais, maintenant ça fait 10 ans qu'on a même un peu plus qu'on a ces montres et effectivement je pense, enfin j'ai balayé toutes les allures et c'est vrai que tout au long de l'année je cours quasiment à toutes les allures de fractionner de 2,30 au 1000 à 5,30 et effectivement en termes de ressenti, de foulée, d'intensité que je mets dans l'entraînement, je suis capable de te dire à peu près à quelle vitesse je cours et ça m'arrive hein, des fois en début de saison pour me voir, tu vois, de pas regarder, justement, je disais tout à l'heure, mes footings, je mets l'autolab tous les kilos, et d'entendre le bip, mais de pas jeter un coup d'œil, et à la fin du footing, de pas regarder, et de me dire, alors, tu penses avoir couru à combien? Et souvent, je me trompe pas beaucoup. Mais après, voilà, c'est des années d'expérience, c'est vraiment au feeling, aux sensations. Moi, je le sens, je sais que quand j'ai les épaules qui commencent à monter, la tête qui part en arrière et tout, c'est que je suis à moins de 2,45 au kilo, tu vois. Quand je commence à racler le fond de ma gorge, c'est que là, il me reste 500 mètres d'autonomie et je vais exploser. Quand je peux plus parler, c'est que je suis en dessous de 3,10, 3,15, tu vois. Quand je parle, mais que c'est plus des mots brefs où tu sens que tu es moins à l'aise, bon, on est plus sur 3,30. Et puis après, quand tu as l'impression d'être vraiment easy, bah, voilà, je connais aussi toutes les allures. Mais non, et ça, c'est que l'expérience qui peut te faire connaître ça. Mais c'est intéressant aussi des fois de le faire, de courir et de ne pas forcément regarder sa montre pour voir si les sensations sont aussi en corrélation avec le chrono. Ouais.
Nicolas, expérience personnel, je t'explique juste pourquoi je suis pas d'accord avec ça. Johan le sait, moi je suis un obsédé de la fréquence cardiaque et des zones de fréquence cardiaque surtout. Parce que je me suis aperçu dans les différentes courses auxquelles j'ai participé, soit 10, semi ou marathon, qu'à chaque fois que je partais un peu fort, je sortais de ma zone de fréquence cardiaque prévue, bah, je finissais par exploser en fait. Okay. Alors qu'à chaque fois où, en termes d'état d'esprit, je suis parti en me disant regarde pas trop l'allure, regarde plutôt si tu restes dans la zone de fréquence cardiaque qui est prévue pour l'effort. J'ai eu un bon ressenti, ça m'a évité de m'emballer au début, et finalement, je suis arrivé sur mes objectifs. Exemple concret, dernier objectif pour moi, c'était le semi de Paris, là, en mars dernier. L'allure me paraissait ambitieuse qu'on avait fixée avec Johan. Moi, je voulais faire 1h15, donc moins d'1h16, donc une allure de 3,35 au kilomètre. La semaine d'avant, je me dis, c'est une allure impossible à tenir. Donc, je me dis, je vais rester dans ma zone de fréquence cardiaque qui correspond pour moi à une zone entre, en gros, 158 BPM et 165. C'est ce que j'estime être ma zone de fréquence cardiaque pour le semi, tu vois. Je me suis uniquement basé là-dessus. Finalement, le chrono est arrivé. Ce n'est pas le simple facteur, mais voilà, j'ai eu la chance que ça se passe. Marathon de Valence était différent. Je suis parti sur une zone de fréquence cardiaque où j'étais plutôt une zone semi. Et 30e kilomètre, bah, j'ai un peu explosé musculairement et j'ai eu du mal à finir et à atteindre mon objectif. Chaque cas est personnel, chaque cas est différent, mais je trouve quand même que le cardio, la fréquence cardiaque, c'est un indicateur essentiel dans une performance, même le jour de course. C'est pour ça que moi, je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais, tu vois.
Le stress ne joue pas le jour de la course.
Ah, le stress, forcément un peu. J'ai connu aussi parfois ce que tu as décrit, genre... tu n'as même pas lancé ton activité, que tu es déjà à 100 pulses, alors que finalement, tu n'as même pas couru. Ça, on l'a tous ressenti un jour. Mais pour moi, c'est la... Enfin, tu vois, Johan parlait de son écran. Moi, si je te montrais mon écran de montre en activité, c'est en haut la vitesse, au milieu, en gros, la fréquence cardiaque et en dessous, effectivement, la distance parcourue quoi, ou le chrono. Quoi, voilà.
Et moi, je parlais plus. Mais en fait, on est vraiment dans plus l'anecdote. Mais parfois, dans les grands marathons, il y a un temps. À Valence, ce n'est pas trop le cas. Puis au demi de Paris, ce n'était pas le cas non plus. Mmh. Mais parfois, il y a tellement un temps d'attente entre le fait d'arrêter ton entraînement et le début du marathon.
Ah, bien sûr, tu as raison.
Et que...
tu as un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois. Pour les athlètes amateurs comme nous. Alors oui, que Johan, c'est différent. Lui, il se met sur la ligne 5 minutes après, il est parti. Mais,
c'est ça.
Bien sûr.
Mais c'est ça. Et j'ai l'impression que ça fait que tu montes davantage, peut-être au début. Donc, c'est peut-être ce biais-là.
Mais en fait, ce qui est intéressant dans ton étude, moi, ça m'a toujours étonné de voir que, moi, c'est ma façon de fonctionner. Les champions, et le disent tous, notamment Johan, eux, la fréquence cardiaque, ils se connaissent tellement qu'ils ne font même pas attention au jour de course. Moi, ça me paraît fou, si tu veux. C'est la différence.
Ouais. Non, moi, les athlètes que j'ai interrogés, c'est ça, mais c'est aussi qu'ils le font pour une performance.
Ils se connaissent, ils savent jusqu'où ils peuvent aller, etc. C'est ça qui est...
Ils s'en fichent un peu de le finir le marathon, là.
Oui, voilà.
C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est-à-dire que si t'es pas bien, tu bâches au 30e et tu t'inscris 2 mois après sur un autre marathon. C'est ton métier, donc t'as peu de scrupules à devoir abandonner si t'es pas bien ou à exploser un petit peu. Donc, effectivement, c'est une vision qui est un peu différente parce que nous, c'est... Bah, c'est pas un coup de poker à chaque fois, mais c'est t'y vas et point barre.
Ben
t'as pas à y aller à demi chanfrein parce que parce que t'as un petit peu peur ou que tu ne veux pas exploser. Là, faut y aller à fond, t'as pas le choix.
Bien sûr.
Ouais, non, c'est exactement ça.
Bah voilà, exactement. Sinon, sur la perception comme ça des sensations, est-ce que tu as une différence entre les jeunes athlètes et ceux qui sont un peu plus expérimentés aussi? Est-ce que là-dessus, tu as constaté des différences?
Bah, oui, j'ai constaté en fait surtout qu'il y avait deux grandes phases en fait dans ce processus d'incorporation des données chez les athlètes élites. La première, c'est que les athlètes vont être un peu focusés uniquement sur les données, et c'est une phase qui est en fait pas essentielle, mais qui est nécessaire à l'apprentissage du couple données-sensation. Donc ouais. Au début, même pour les athlètes élites, quand ils ont découvert la montre, ils vont avoir vraiment une fascination pour la donnée. Ils ont besoin finalement d'être obsédés par ces chiffres-là pour mieux comprendre en fait ce mécanisme-là, ce que j'ai appelé moi le devenir numérique du coureur. Donc c'est vraiment le corps vécu, le ressenti, il a peu de place.
Ouais.
Et ensuite, assez vite, ils vont développer en fait une interaction, un dialogue entre ce corps-là numérique et les sensations. Et ça va se faire au fur et à mesure des sorties. C'est exactement comme disait Johan tantôt, c'est-à-dire que des coureurs vont me dire « j'ai couru tellement de 5 kilos que je sais exactement comment je dois me sentir moi, ouais. dans un 5 kilos, ma montre va me le dire, mais je me connais, je sais que si je pars trop vite, pas... »
Eh oui, là, c'est l'expérience qui prend le dessus sur la donnée, bien sûr. Ouais.
Donc, ce qui fait que finalement, c'est avec le temps, ces données-là vont faire partie en fait, du corps vécu, et ce qui fait qu'il va y avoir... une interaction toujours continue entre les données et les sensations. Je vous dirais qu'il y a trois moyens pour les athlètes de développer ce que j'ai appelé, il y a un mot barbare en sociologie, j'ai appelé ça le savoir, enfin c'est pas moi, mais c'est une autre sociologue qui appelle ça le savoir-faire perceptif, c'est-à-dire la connaissance qu'on a de son corps vécu, si vous voulez. Et Il y a trois façons que les athlètes utilisent. La première, c'est de faire un système d'équivalence entre données quantitatives et dimensions sensorielles. Beaucoup vont utiliser, d'ailleurs ça va être une prochaine étude pour moi, des cahiers d'entraînement où ils vont marquer finalement voici ma séance fractionnée. Sur 10, je me mettrai une cote d'effort de 7 sur 10 et voici ce que j'ai ressenti quand j'ai couru. Super utile d'ailleurs aussi si vous vous blessez régulièrement, de savoir quand et pourquoi et quel type de séance vous blesse. La deuxième, c'est d'utiliser la montre au niveau de comme outil de validation rétrospectif, si vous voulez, c'est-à-dire de regarder en fait de regarder l'allure après un entraînement ou justement de savoir comment je me suis senti après, etc. Donc, la montre va servir, comme on disait tout à l'heure, après un entraînement pour savoir comment, en fait, la personne s'est sentie.
Les montres le font désormais. Hein. Ça te propose un emoji. Ouais. Voilà. On te dit comment tu l'as trouvé. Facile, pas trop difficile. Ouais. Moyen, difficile, très difficile.
Ouais,
ça aussi, c'est entre guillemets, analysé, mais de manière un peu primaire par la montre.
Ouais, par l'intelligence artificielle,
voilà, exactement.
Ou tout ce que vous voulez, mais après, rien remplace, à mon avis, un entraîneur là-dessus.
C'est
Puis après,
sûr.
C'est, comme je vous ai dit tantôt, c'est de la gestion du manque de cohérence entre parfois les sensations et les données quantitatives. Et là, vraiment, c'est de contextualiser finalement la donnée en fonction de l'environnement. C'est un apprentissage, en fait. Les données, c'est un apprentissage aussi pour moi social, c'est-à-dire que ça se fait avec des partenaires d'entraînement, avec l'entraîneur, et la donnée en course à pied doit faire partie. Alors c'est une donnée parmi d'autres justement, mais elle doit aussi s'apprendre avec un environnement, avec un entraîneur, avec des collègues, pour pouvoir discuter de ces chiffres-là et de pouvoir profiter de l'expérience. Parce que ce qu'on aime dans la course à pied, c'est aussi de s'aérer, de prendre du plaisir avec les amis. Moi, je crois beaucoup à la course à pied comme outil de socialisation et comme outil surtout à notre niveau, d'amitié, etc. Donc, la performance, oui. Est-ce que la montre va être à chaque fois uniquement... si vous vous focussez uniquement sur la donnée, il risque d'avoir finalement peut-être une lassitude du chiffre, et en sachant aussi qu'une progression, quand vous progressez sur 10, 15, 20 ans, vous progressez par palier. C'est-à-dire qu'en général, vous arrivez
à... Ça, c'est fou d'ailleurs, hein. Qu'on soit amateur ou pro d'ailleurs. Et ça, tous les amateurs vont se reconnaître dans ceux qui nous écoutent, c'est que ce système de palier est assez dingue. Parfois, vous allez stagner pendant des mois à un même niveau.
Voire des années, ouais.
Quasiment du jour au lendemain, hop, vous allez passer une marche. Pourquoi ? Vous savez pas vraiment pourquoi. Et finalement, cette marche est acquise. Vous allez rester dessus pendant un certain laps de temps. Ça peut être des semaines, des mois, voire des années. Et d'un coup aussi, vous allez encore réaugmenter votre niveau. Quoi. Ça, c'est la magie de la course à pied.
Et puis des fois, comme dans Mario, tu redescends de 3 étages.
Oui, ça arrive absolument. Et c'est même le plus courant. Oui, ça, c'est sûr. Tu as raison. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Mais les athlètes pros sont à part à ce niveau-là parce que eux, c'est encore autre chose. Ils vont plus loin dans la douleur. Ils sont entraînés pour ça. Ils ont vraiment leur vie tournée sur la performance et l'entraînement. Mais chez les coureurs amateurs, c'est important de le dire, effectivement. L'analyse de la donnée, c'est bien, mais l'analyse de la perception est limite plus importante encore, Nicolas.
Oui, oui, surtout pour éviter les blessures,
bien
par
sûr,
exemple.
Parce
qu'à partir du moment où on ne s'écoute pas... De toute façon... Vous pouvez regarder votre montre en même temps, c'est le corps qui va vous dire si vous pouvez courir vite ou pas le jour de la compétition.
Et,
donc ce qui fait que alors je ne sais pas si encore une fois c'est une pratique qui existe aussi en France, mais en tout cas dans les athlètes élites que j'avais interrogés, c'était vraiment intéressant de voir aussi c'est que les gens avaient besoin aussi d'écrire leurs sensations sur un cahier en plus de la montre. Donc il y avait vraiment ces deux outils-là qui dialoguaient, donc de se dire comment ils avaient ressenti. Et en fait, beaucoup utilisaient aussi les données de la montre pour éviter, en fait, d'année en année, pour éviter des blessures. Si, en fait, ils savaient qu'il y avait des séances à 4-5 semaines d'un marathon, ils savaient que là, c'était des gros volumes, ils savaient qu'ils devaient faire attention, ils savaient qu'il y a telle séance, ben, je ne vais pas y aller à fond parce que ça fait 2 ans que je me blesse à cette séance-là qui est, je ne sais pas moi, un Michigan inversé ou un truc comme ça, pardon.
C'est quoi un Michigan inversé ?
C'est...
Tu connais ça, Johan ?
Non.
Ah. Faudrait que je te réexplique.
Ah, il faut, ouais, faut être autour du lac Michigan.
Ah ouais, c'est ça. Non, c'est
je pense que c'est inventé par l'université justement de Michigan, mais je pense que c'est un 200, 400, 600, 800.
Quelle horreur.
Et après, tu redescends.
Ouais. Et on faisait quand même un tour de piste. Mais faudra que je mette, comme on dit au Québec, faudra que je mette un homme là-dessus.
Ouais, on n'a pas du tout envie de faire ça, quoi. Je vais regarder à quoi ça correspond.
Mais c'est une pyramide.
Tu vois, dans ce que tu dis, c'est marrant parce que nous, on reçoit beaucoup d'athlètes aussi dans RMC Running. On a reçu Manu Rudolph-Lévis, qui fera partie des favoris français sur le marathon de Paris, là, et qui, lui, a un tableur Excel où il note toutes ses sensations après n'importe quelle séance. Donc, toutes les séances sont analysées en termes de perception.
C'est parce qu'il est ingénieur.
Et ouais, c'est vrai. Et l'exemple le plus frappant qu'on a eu avec Johan, c'est la première fois qu'on a eu la chance d'interviewer Kylian Jornet, qui lui aussi, depuis ses débuts en fin d'adolescence, a le même fichier Excel encore aujourd'hui. Et note toutes ses séances.
Je crois que Julien Wanders note sur un calepin.
Et pareil,
calier, normal.
Voilà. Toutes ses sensations, Kylian Jornet, il les note sur son tableur Excel. N'importe quelle séance, soit un footing facile ou une ascension comme ça, répétée plusieurs jours d'affilée. Tout est noté comme ça, répertorié, comme tu le dis, sur un tableur ou un cahier. Johan, tu n'as jamais eu cette pratique si tu l'as
Moi,
fait toi
je
aussi.
Faisais ça jusqu'à 2015 et l'invention de Strava. Après, j'ai arrêté. Tu
avais ton journal, quoi.
J'avais mon journal, mais je tapais sur l'ordinateur, j'imprimais, je mettais mes dossards à l'intérieur de mes courses, je mettais plein de trucs, les commentaires des séances et tout ça, le volume total. Et ça, je l'imprimais et chaque saison, je faisais mon classeur comme ça avec mes dossards et mes infos. Et puis, c'est vrai que 2015, je sais pas pourquoi j'ai tout arrêté et je mets maintenant sur Strava. Alors sur Strava, je mets des fois des commentaires en perso effectivement pour m'en rappeler. Je sais pas si tu te rappelles, je faisais exactement le protocole que Nicolas nous a donné là quand j'étais blessé au tendon d'Achille. À un moment donné, je mettais mes seuils de douleur.
Oui, je me rappelle.
Sur 10. Et ça me permettait de voir quelles chaussures me faisaient mal au tendon, tu vois, parce que je me rendais compte qu'il y avait une paire spécifique qui au bout d'un moment m'enflammait le tendon et à chaque fois que je sortais d'un entraînement avec ces paires de chaussures, je mettais toujours 3 sur 10 alors qu'avec d'autres paires je mettais 1 ou 2 et effectivement ça peut être intéressant de faire ça mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai maintenu dans le temps, mais de façon épisodique j'ai pu le faire.
Et oui, ça aussi, tu vois, c'est sur l'analyse, la reprise et les seuils de douleur. Là aussi, c'est important de le noter. Et tu sais, nous, on encadre des amateurs pour le marathon de Paris. Et chaque début de podcast, on leur demande comment vous vous sentez, les notes sur 10, le plaisir, la fatigue, la difficulté. Parce que ça, c'est un très bon repère, une bonne photographie de l'endroit où ils sont.
Absolument.
Et comment ils se ressentent, comment ils sentent comme ça et comment se déroule la préparation, quoi.
Oui, absolument.
Donc ça, c'est un conseil que tu donnes à des coureurs amateurs aussi, de noter de la perception d'effort, de l'analyse de séance au-delà des données statistiques de la
montre. Oui, effectivement. Bah après, je suis pas entraîneur, mais oui, je pense que quand je regarde les bonnes pratiques entre guillemets, oui, c'est aussi de quantifier ça, de qualifier ça en fait, justement par rapport aux séances et de noter ces séances-là. Il y en a beaucoup qui le font aussi sur cahier papier. Oui. Moi, ça m'a, voilà, ça leur permet de
Est-ce qu'ils se relisent toujours ou est-ce qu'ils le font juste pour une séance, puis après ils laissent le cahier, puis
ils vont jamais, très rarement. Si ça va bien, en gros, ils le regardent pas. Ils vont le regarder s'il y a blessure, s'il y a mauvaise performance. Oui. Ils vont essayer rétrospectivement, exactement. C'est un outil vraiment de compréhension de son corps de façon rétrospective. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Ouais.
Quand il y a une performance qui est attendue, pas trop. Mais s'il y a une très bonne performance, ils vont regarder, et surtout s'il y a une mauvaise performance. On se rappelle beaucoup plus de la mauvaise performance que la bonne performance.
J'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous croyez à la théorie du mauvais jour? Vous préparez un marathon pendant 3, 4, 5 mois, le grand jour arrive, et il y a cette théorie du mauvais jour. Vous sortez d'une prépa idyllique, tout s'est bien passé, etc. Vous n'atteignez pas votre objectif pour différentes raisons. Est-ce qu'on y croit, cette théorie de « c'était pas le bon jour, j'avais pas les armes aujourd'hui pour aller chercher la perf » Qu'en pense le sociologue, chercheur, coureur Nicolas Moreau, alors?
Je sais pas, il faudrait plus demander à Maxime qui a une mauvaise journée, et là, ça balance...
Ah oui, à Max Lopez,
oui,
bien sûr,
pauvre.
Bien sûr.
Mais
il a fait une vidéo d'une heure et demie sur l'analyse de Valence, donc allez la regarder si ça vous intéresse. Ouais, c'est ça.
Mais en l'absence de maladies connues avant, de virus, etc., de décalage horaire parce qu'il y a aussi si on fait un marathon à l'étranger, j'ai l'impression que ça va être beaucoup mental, mais c'est vraiment pas le sociologue qui parle, c'est vraiment le coureur.
Ouais.
Là, j'ai vraiment cette impression là.
Moi, je te pose la question, j'ai hâte d'entendre Johan, parce que plus le temps passe, plus je me dis, j'y crois de moins en moins au mauvais jour. C'est-à-dire que si vous n'atteignez pas l'objectif ambitieux que vous êtes fixé, c'est qu'il y a un problème quelque part, Johan. Tu vois ce que je veux dire? Soit c'est trop ambitieux, soit la prépa n'a pas été faite en adéquation avec l'objectif, soit il y a quelque chose qui a cloché, quoi. Cette théorie mauvais jour, j'ai du mal à y croire, en fait.
Non, je pense que c'est un ensemble qui fait que tu peux ne pas être bien. Tu vois, ça peut être ton manque de sommeil, une mauvaise alimentation les 3 derniers jours, déshydratation, le stress qui t'a englobé et qui t'a complètement paralysé, ça arrive. Et puis après, c'est aussi la façon dont tu t'es préparé. Des fois, tu dis la préparation, elle a été idyllique pendant 12 semaines. Ben justement, ça m'inquiète parce que peut-être que ton pic de forme, il est passé, tu vois.
Ouais.
Les préparations idylliques où on a l'impression de voler tout au long de la prépa, attention, c'est pas un gage de réussite parce que peut-être le pic de forme, il est arrivé sur ta dernière sortie longue à J-15.
Exactement.
Et que la fatigue accumulée de tous ces entraînements qui se sont bien passés et quand tu voles, tu voles, tu voles, au bout d'un moment, ça peut pas durer... dans le temps, donc je pense qu'il y a, c'est un ensemble de plusieurs paramètres. Par exemple, Valence, toi, ça t'as explosé. Si on prend ton cas, la préparation s'était très bien passée, sauf que tu chopes une gastro même pas 30 heures avant le départ de la course. Donc, avec la chaleur égale déshydratation égale crampe et égale chrono complètement foiré, alors que la préparation s'était passée de façon merveilleuse. Mais il y a eu un petit grain de sel qui a fait que ça a découlé sur une contre-performance.
Exactement. Il y a un autre aspect des montres connectées, Nicolas, qui est obsédant pour les coureurs, c'est les prédicteurs de course. Est-ce que tu en as parlé avec les athlètes que tu as suivis?
Non, c'est quelque chose que j'ai pas regardé. Alors peut-être que j'ai fait la même étude avec les amateurs. Ça, je l'ai demandé, mais je l'ai pas encore analysé. Mais non, ça.
D'accord. Eux, ils sont vraiment fixés sur leurs objectifs à long terme. Il n'y a pas de...
Moi, dans mon cas, c'est tout faux. Hein. Je tiens à le dire.
Ah voilà, c'est pour ça que je te demande.
Je ne sais pas pourquoi.
C'est ça. Et
il
c'est quoi
prend,
c'est pessimiste.
Il me prend vraiment pour un pète.
Ah
c'est
ouais,
sous-estimé.
Ah ouais.
Il me dit 31-30 au 10K. Un jour, je lui sors j'ai fait 30-20 aux 10 km de Paris des Champs-Élysées. Et il a pas, je sais pas, l'algorithme, il a toujours pas remis à jour. Il a pas cru que c'était moi qui a couru.
Il a fait une erreur 404. Il a dit non.
Ouais, c'est pas il me dit toujours que je vais faire 31 au 10K alors que je lui ai fait devant ses yeux.
Ah, c'est bon, ça, c'est excellent. Ah bah, tu vois, comme quoi les limites de la technologie, ça arrive.
Ouais, mais et ça... les deux prédicteurs de course, que ça soit de ma montre et de Strava, parce que l'algorithme est différent.
Ouais, il y a, ouais,
sur chaque truc, t'as des, chaque marque, t'as ton prédicteur, et là, c'est ouais. Même les deux sont faux.
Ouais. Donc Nicolas, ouais, ça, les pros n'ont pas du tout de regard là-dessus. Quoi.
En tout cas, c'est pas ressorti dans dans les entrevues que j'ai eues. Il y en a aucun non plus qui payait pour Strava. Ils n'étaient pas abonnés. Ou peut-être un, mais en général, les gens...
Ouais, ils n'utilisent que le minimum. Et ils n'utilisent pas non plus leur montre pour le sommeil.
Non, ça, par contre, oui, ça, chez les amateurs, oui, beaucoup. Ouais. Mais non, très, très peu, absolument. Et pourtant, ils ont des nutritionnistes, évidemment. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Mais non, très peu, par exemple, pour la nourriture, pour le sommeil. Non, non, absolument. Mais ils vont le quantifier sur leur journal, par contre, et le qualifier. Donc, ils vont regarder bonne nuit de sommeil, etc. Mais ils vont enlever leur montre.
Ok. Oui. Qu'est-ce que tu as constaté sur... Bah, alors après, c'était un peu biaisé parce que tu discutais avec eux, mais sur le reste, sur ce qu'ils t'ont dit, sur le nombre de fois qu'un athlète regarde sa montre par kilomètre, par exemple.
Ouais, parce que t'as des chiffres là-dessus. Il y a tout. Hein.
Ça, c'est... Parce que ouais, ça, il y a plein d'écoles différentes.
Il y en a tous les 100 mètres, il a la main.
C'est vrai, hein. Il y a des coureurs obsédés qui regardent la montre, ça devient un réflexe. On ne se rend même plus compte qu'on regarde la montre le temps. Quoi.
En fait, ce qui est ressorti, c'est, et je pense que c'est une pratique qu'on a tous, c'est qu'on va regarder plus sa montre quand ça va commencer à moins bien aller.
Oui, c'est vrai.
Et y avait... Moi, c'est l'inverse, je ne regarde plus.
Ah bon bah, ah ouais, d'accord.
Ouais. Je dis, c'est mort, j'ai plus envie de me mettre le moral à zéro.
Ah, d'accord.
Je dis, fini et vois ce que tu peux faire.
Donc, il y en a qui la regardent plus. Et il y a cette technique-là, il y en a même qui vont retourner la montre.
Ah ouais,
ouais,
quand la perf s'envole, ça y est, on regarde plus quoi.
Mais après ils m'ont dit si j'ai pas le rythme aujourd'hui, j'ai pas le rythme aujourd'hui, puis on arrête là. Il y a vraiment quelque chose au niveau du jour de la course. Je m'en fiche de terminer un marathon en 2:45.
Ça, oui,
je vais pas me j'ai voilà donc ça j'ai trouvé ça intéressant.
Toi Benoît à Valence, t'as regardé à la fin?
Ah, j'ai regardé, bien
fini,
sûr.
Comme
ah non,
tu
moi je regarde du début. Valence, moi j'ai dû m'arrêter trois fois pour des crampes au mollet. Hein, donc effectivement, dans les deux derniers kilomètres, avec Amine, qui est un membre de RMC Running, qui m'accompagnait comme ça sur la fin. Et c'est pour ça que ça me faisait sourire, parce que je pense toujours à ceux, et on l'a tous fait au moins une fois, qui sont en course, qui doivent s'arrêter pour une raison ou une autre, et qui coupent la montre. Alors que le temps ne s'arrête pas.
Ah, les tricheurs voilà, alors ça, c'est les tricheurs de
c'est
première.
Ça. Le temps ne s'arrête pas, mais les gens, tu tires une crampe, t'arrêtes ta montre. Mais non, mais c'est le chrono officiel qui compte. À quoi ça sert d'arrêter ta montre, tu vois, c'est assez marrant à analyser, parce que je crois que c'est Olivier Létang, qui est président d'un club de foot de Ligue 1 et qui est passionné de course à pied, président de Lille, qui a fait le marathon de New York et qui a stoppé sa montre quand il s'est arrêté boire
à 42:195.
Donc pour lui, t'es passé sous un chrono alors que le temps officiel n'était pas du tout ça. Quoi. Ça,
ah oui.
C'est assez marrant quand même. T'avais jamais entendu ça avec tes athlètes, Nico?
Non, non. Puis, par contre,
c'est français, ça.
Ouais, c'est ça. Non, mais bizarre.
De toute façon, les primes vont toujours avec le gun time,
Bien sûr.
C'est pour ça. Ouais, ouais.
Ah non, mais que ce soit complètement ridicule, on est d'accord. Même quand t'es un amateur et que tu vises un chrono, t'as beau stopper ta montre, ce qui compte, c'est la montre du chrono officiel. Ouais,
c'est dans le classement.
Non, mais évidemment. Donc, ouais, ça t'a pas de données là-dessus sur le nombre de fois où on regarde la montre. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements que t'as retenu que tu veux nous raconter d'ailleurs?
Mais par rapport au la chose principale pour moi, c'est vraiment l'importance d'une socialisation, ou en fait que la montre en fait devienne quelque part un objet de dialogue avec l'entraîneur, avec ses partenaires de course, avec soi-même au niveau de l'analyse, et qu'elle soit pas une donnée en tant que telle qui va motiver ou démotiver. Je pense que c'est important de courir, si vous voulez, avec ces données-là, si ça vous motive, mais il faut aussi avoir un pas de recul. Sans donner de conseils, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une séance, par exemple, par semaine, où vous ne prenez pas la montre, puis vous regardez ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous fait stresser? Est-ce que parce que la donnée n'est pas sur Strava, vous avez l'impression de ne pas avoir couru, comme dit, si ce n'est pas sur Strava, ça n'existe pas? Ou vous faites une séance de fractionné juste sans jamais regarder la montre et aux sensations, et vous regardez la différence? Ça va vous permettre en fait d'affiner finalement ce corps un peu vécu, et de le faire dans des... En fait, les athlètes élites arrivaient très bien si vous voulez, à analyser l'environnement et à faire une séquence qui correspondait à l'environnement. Je m'explique. Admettons que la séance consiste à faire un 8 fois 2 minutes à vitesse très élevée, et ils savent que ça correspond à peu près à une cote d'effort de 8 sur 10. Mais il fait très chaud, ou ils sont finalement dans un endroit où il y a une belle montée, finalement, ils ne vont pas faire le pace qui est recommandé par le plan, mais ils vont se servir de la montée pour reproduire une cote de 8 sur 10.
Exactement.
Et ils vont finalement bénéficier de... Ils vont analyser leur sensation corporelle en disant « là, ça, j'ai reproduit à peu près ce que je devais faire ». C'est surtout utile au Québec. Je vous dirais que quand il fait moins 30 et que ça neige, nous, on court dans une salle intérieure qui est une université, mais parfois, quand il y a des examens, on ne peut pas y aller parce que la piste d'athlétisme est prise par des centaines d'étudiants qui font des examens, donc on va courir dehors. Et bien, à ce moment-là, il faut qu'on arrive à finalement transposer ça. Et notre entraîneur nous apprend, on dit, vous voyez cette montée-là, si vous la faites finalement à une impression de... si vous la faites à 80% de votre capacité aujourd'hui, ça va être comme si vous aviez fait deux fois deux minutes sur piste, etc. Donc, et ça, ils arrivent à très bien le faire, et cet apprentissage-là. Donc, essayez de le faire aussi de temps en temps. Faire une séance par semaine ou une séance tous les 15 jours pour apprendre ça. Et moi, ça me semble vraiment intéressant parce que le jour aussi, c'est que votre montre peut s'arrêter le jour d'une compétition.
Il ne faut pas stresser.
C'est une erreur stratégique. Ou alors perdre la connexion, t'as raison, ça arrive à Chicago, moi ça m'est arrivé au marathon de Londres, c'est vrai que des fois elle est complètement déconnectée, tu fais un kilo en 2:20, tu te dis mais...
Paris, dans les tunnels, là, il y a un long tunnel sous le jardin des Tuileries là, de 800 mètres.
Donc si vous connaissez un peu comment vous devez vous sentir, ça peut être un jeu. En fait, je pense qu'il faut jouer aussi avec la montre, ça reste un outil, il ne faut pas que ça soit une source de stress, c'est facile à dire en même temps.
Ça nous renvoie à un épisode qu'on a fait il y a quelques semaines avec Nico Dalmasso, qu'on salue d'ailleurs, qui est gérer ses allures de course et d'entraînement. Dans le sens où, Johan, il ne faut jamais être accroché à une allure cible précise. Et c'est plutôt la zone d'effort que vous allez chercher, notamment à l'entraînement.
Ouais, c'est pour ça que moi, j'aime bien mettre du fartlek dans l'entraînement pour que les gens courent aussi à la sensation. Tu vois, Jean-Louis Tour, qu'on accompagne, qui est parti aux États-Unis en pleine prépa marathon, qui s'est tapé 8 heures de vol, un décalage horaire et tout, un changement de météo. Ben, je lui ai mis que du fartlek parce que si je l'avais mis sur piste à faire des 1000 mètres et qu'il s'était aperçu qu'il courait loin de ses allures habituelles, c'est très compliqué. Et puis, au moins, l'avantage du fartlek, c'est tu cours à ta sensation. Et puis moi des fois quand je fais des fartleks, je regarde pas l'allure, je regarde jamais l'allure, et même après l'entraînement je ne regarde pas, je me dis voilà, j'ai couru comme je l'ai senti ce jour-là, je me suis senti bien, et ben tant mieux, c'est très bien, même si peut-être j'étais pas dans les bonnes zones. Écoute, c'est comme ça.
Et ben voilà, les conseils du pro pour tous ceux qui nous écoutent. Merci Nicolas Moreau d'être venu dans RMC Running, c'était passionnant cette heure d'échange avec toi. Tu rentres au Québec, donc bon courage.
Merci.
Il fait quel temps au Québec?
C'est beau, c'est le printemps là, non?
Il fait encore de la neige, mais
encore froid quoi. On passe tout de suite au bon plan d'Ossard.
RMC, le bon plan d'Ossard.
Et Johan, cette semaine, on voulait mettre en avant une belle initiative. Un 10 km qui sera organisé à Taverny, en région parisienne, le 31 mai prochain. Initiative au profit de l'association Lisa Forever. C'est pour aider et accompagner les enfants atteints d'un cancer. C'est une cause qui nous touche et qui nous parle. Pour en parler, on a avec nous la fondatrice de l'association, justement Virginie, qui est en direct. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
C'est
l'idée donc de cette association qui vous touche personnellement, parce que Lisa, c'est le prénom de votre petite fille qui a été atteinte d'un cancer il y a quelques années et qui est malheureusement morte après quelques années de combat. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire personnelle?
Oui, bien sûr. Donc, Lisa, c'était notre fille, notre premier enfant, pour être précis. Et elle a été atteinte d'une tumeur cérébrale à l'âge de 2 ans et demi. Donc, et après 16 mois de combat avec traitement de chimiothérapie et de grands espoirs pourtant derrière ces traitements, malheureusement, la maladie est revenue. Et du coup, là, ça a été fulgurant. Et en 2 mois, malheureusement, elle est décédée.
Bah déjà, bravo pour la force de se relever d'un tel drame personnel. Hein, j'imagine que c'est très difficile et que vous pensez à elle tous les jours. Et bravo surtout d'en avoir fait une force avec cet asso, donc Lisa Forever, parce qu'à travers votre combat personnel, vous avez rencontré des équipes formidables, j'imagine. Nous, on a eu la chance avec Johan d'accompagner sur quelques
C'est
épisodes
ça, ouais.
Gustave Roussy, qui mettait en place un protocole de course à pied pour les patients en rémission d'un cancer. C'est ce que vous vouliez justement pour la mémoire de votre fille, mettre en avant ce combat, ces enfants touchés dont on parle assez peu finalement, et essayer de les aider au maximum?
En fait, au travers de notre combat, on s'est rendu compte déjà que c'était une cause et une maladie qui n'était pas forcément connue chez les enfants. On n'en parlait pas dans le grand public. Donc quand ça tombe dans une famille, c'est le choc. Et ensuite, comme elle a été suivie à Gustave Roussy, on a eu la chance malgré tout de rencontrer les équipes de Gustave Roussy, qui sont des équipes extrêmement investies et engagées, avec un côté humain très très marqué. Et les équipes du docteur Dufour, qui est la responsable du département aujourd'hui, le docteur Dufour, c'était l'oncologue de notre fille, pour la petite histoire à l'époque.
D'accord.
Donc c'est ce qui a créé le lien. Et ensuite, pourquoi on a créé l'association? Alors effectivement, en mémoire de notre fille, mais pas que, c'est aussi pour faire face à l'impuissance qu'on a eue pour notre fille, puisque le plus dur en fait pour un parent, c'est l'impuissance face à la maladie. Et on s'est dit, il faut qu'on transforme ça et que nous, on fasse quelque chose pour ceux qui vont se battre après elle. Voilà.
Bah, félicitations, vous avez déjà
Bravo.
récolté plus d'1 million d'euros hein, pour soutenir des programmes de recherche et apporter du réconfort dans les hôpitaux. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir les vidéos de vos actions. Moi, je l'ai regardé tout à l'heure, mais ça prend au cœur hein, tout de suite de voir ces enfants. Il y a rien de plus injuste que de voir un enfant malade et voir les sourires que vous leur apportez sur leurs anniversaires, sur les animations, sur le maquillage. Sur le bonheur voilà, instantané que vous apportez parfois, bah, on vous félicite dans cette belle action. Précisez que chaque année, il y a 2 500 enfants adolescents qui sont diagnostiqués d'un cancer en France et que 500 d'entre eux n'en survivent pas. Donc c'est important de continuer à lutter contre cette maladie et tout faire pour changer les choses, hein, Virginie.
Oui, exactement. C'est essentiel et faut beaucoup en parler aussi. Parce qu'aujourd'hui, on commence à plus en parler, mais ça reste encore quelque chose d'assez tabou. Donc il faut sensibiliser la population générale, il faut sensibiliser les médecins de ville aussi, les former, parce qu'ils ne sont pas forcément confrontés à beaucoup de cas dans leur carrière et ils n'ont pas les réflexes automatiques pour le diagnostic. Donc c'est des pertes de temps aussi. Donc il y a encore beaucoup de travaux à lancer autour du cancer chez l'enfant.
Comment peut-on vous aider en pratiquant la course à pied, donc à travers ce 10 km le 31 mai à Taverny? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'événement?
Alors moi, je vais déjà juste corriger, il y a le 10 km, mais il y a aussi le 5 km et le
Ah,
15 km,
ah oui, il y a trois
précise.
distances, magnifique.
Il y a trois distances et il y
Super.
a la marche aussi de
Ah,
5 km, parce que l'idée, c'est
accessible à
qu'on...
tous.
À
Voilà.
tous, ouais.
Exactement,
OK.
voilà, tout à fait. Donc, et cette course, on l'organise une fois par an, c'est notre plus gros événement. C'est le moment de mobiliser l'ensemble des acteurs autour de cette cause. Et au travers de cette course, en fait, ce qu'on propose, c'est juste un principe de collecte. Donc chaque coureur ou chaque marcheur doit collecter un montant minimum pour pouvoir prendre le départ. Donc pour la course, c'est 100 euros, pour la marche, c'est 50 euros.
OK.
Et donc l'idée, c'est qu'ils ouvrent un lien de collecte et ensuite qu'ils allaient mobiliser leur entourage pour venir faire un don sur leur collecte et leur permettre de prendre le départ le 31 mai.
Eh ben on mettra tous les liens nous, hein, sur nos réseaux sociaux. C'est une belle initiative, Johan, qu'on est
Oui.
heureux de pousser parce que on parle toujours de sport santé, de l'importance du sport dans la vie, etc. Mais quand ça peut se cumuler à une belle action, Johan,
Bah,
on
c'est
n'hésite
ça.
pas de la mettre en avant.
La solidarité,
Exactement.
l'esprit.
Ouais. Et
L'esprit et ce que je peux ajouter,
bien
si je peux
sûr,
me
bien
permettre,
sûr,
c'est
bien sûr.
qu'au-delà de la course et de la marche, en fait, nous, on propose une journée entière. Donc, ça ouvre à 10 h. Il y a un village avec des animations pour les enfants, pour les adultes aussi. Il y a des concerts, il y a des espaces de restauration, il y a des buvettes, il y a des massages. Enfin, c'est vraiment une journée à partager entre amis, en famille, entre collègues aussi, parce qu'on a beaucoup d'entreprises partenaires qui utilisent notre événement comme événement team building pour leurs
Ouais, une
collaborateurs.
sorte de
Et
séminaire
vraiment,
quoi, une séminaire,
exactement.
voilà, un séminaire
Et
sport santé quoi.
généralement,
Bravo.
exactement.
Ouais, c'est
Et
bien.
ils
C'est bien,
signent la première année où ils signent, en général, ils reviennent l'année
ouais.
suivante. Donc c'est
Ah,
que
c'est bon
ça
signe.
marche bien.
Ok.
Exactement.
Je précise que l'événement peut se disputer aussi en course connectée. Hein. Ça aussi, c'est
Oui.
important. Si on n'est pas dispo dans la région parisienne le 31 mai, on peut faire ça à distance.
Exactement. Et dans ces cas-là, on laisse le coureur ou le marcheur faire son parcours à la date qu'il veut et la distance qu'il souhaite d'ailleurs. Et par contre, le jour J, il reçoit des liens directement par mail qui lui permettent d'accéder en fait au live de la journée. Donc, il peut suivre quand même les grands moments forts de la journée, à savoir la remise de chèque, le départ de la course, le discours des médecins, parce que le docteur Dufour de Gustave Roussy vient chaque année. Donc voilà,
Bon.
c'est un bon moment de partage aussi à distance.
Magnifique initiative. Je peux vous faire courir Johan à distance à Bergerac, mais j'ai peur qu'il gagne la course, Virginie. Donc après, c'est comme vous voulez.
Oh, eh bien, écoutez, très bien.
Pourquoi pas. En tout cas, on vous félicite pour cette
bravo, ouais.
magnifique action. N'hésitez pas à faire des recherches sur l'association Lisa Forever. Et si vous êtes passionné de course à pied, vous êtes dans la région parisienne, vous êtes dispo le 31 mai, vous voulez faire une bonne action en mobilisant les personnes autour de vous, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur ce 10 km, 5 km, 15 km ou sur cette marche de 5 km à Taverny le week-end du 31 mai. Merci beaucoup Virginie d'être venue dans la
Merci à vous, merci beaucoup.
Et bravo pour votre combat, bravo Virginie.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Tiens, j'ai juste un exemple de séance Michigan parce que j'ai regardé. C'est un enfer. J'ai trouvé une séance 1600 mètres sur piste à allure 5 km. Après 1600 mètres tempo, donc allure seuil semi-marathon. Ensuite 1200 mètres sur piste à allure 5K. 1200 mètres tempo. 800 mètres sur piste rapide, 800 mètres tempo.
Et inversé, vous commencez par la fin.
Quelle horreur, mon Dieu. Ah ouais, t'imagines. Wow, 800,
ouais, c'est un
1200,
peu les séances
1600.
Mixtes que je te donne. Il y a du tempo et de la VMA dans la même séance.
Tout à fait.
Dans la même
ça
séance.
Donne pas envie du tout.
Oui, c'est ça le principe, c'est de mélanger VMA, endurance fondamentale, endurance limite, absolument.
Mélanger les allures. Merci Nicolas, à bientôt dans RMC Running. Merci au maître Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.